Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à tous. Le jour d'après, en Espagne, après la déclaration d'indépendance de la Catalogne hier, Madrid déclenche les premières mesures pour reprendre en main la région. 150 responsables ont été limogés. Quelle sera la suite politique? On fera le point avec Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Nous irons ensuite à Barcelone où, après une nuit d'euphorie, les indépendantistes doivent faire face à la réalité de ces sanctions. Mais on verra avec Sandrine Etoua-Handeg qu'ils ne croient pas vraiment à une reprise en main. Dans ce journal, nous parlerons aussi du Maroc qui fête les 1 an d'une contestation partie dans le RIF. Et puis en France, on fera le point sur les vaccins rendus obligatoires désormais, 11 vaccins et non plus 3. On verra que cela suscite toujours un grand débat dans l'Hexagone. Nous allons faire tout de suite le point sur la situation. Nous allons faire tout de suite un point sur la situation en Espagne, dans un instant avec Marie-Hélène Ballestero, qui est à Madrid. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Alors, donc une série de décisions qui ont été prises par le pouvoir central après la déclaration d'indépendance de la Catalogne décidée par Carles Puigdemont. 150 responsables donc vont être limogés. En ce moment, une manifestation a lieu à Madrid, de la part des unionistes. Quelles sont les suites à prévoir dans les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent du côté de Madrid?
Eh bien, ici, comme vous le disiez, je suis en ce moment dans le centre de Madrid. Et c'est une fois de plus la Fondation DNAS qui a convoqué cette manifestation. Alors, c'est un collectif conservateur qui défend la nation espagnole, et c'est ce que va défendre justement le gouvernement central et tout le bloc constitutionnel qui est constitué par les deux principaux partis de l'opposition, Ciudadanos et le Parti socialiste espagnol. Dans cette manifestation, qui ressemble un petit peu à celle qui a eu lieu le 7 octobre, il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes sur cette même place de Colón, et les slogans étaient similaires, la revendication de l'unité du pays et la défense de la Constitution face à l'impunité, dit-il, des putschistes. C'est une manifestation qui est convoquée 24 heures après que le Parlement catalan ait proclamé la République catalane comme État indépendant et souverain. Actuellement, ils sont des milliers rassemblés sur cette place, en plein cœur de Madrid. Ils sont tous venus avec leur drapeau espagnol qu'ils arborent fièrement, et c'est dans une ambiance très festive qu'ils sont venus revendiquer cette unité de l'Espagne. Le 7 octobre dernier, déjà, plusieurs membres du Parti populaire au pouvoir en Espagne avaient déjà fait savoir qu'ils seraient présents sur cette place de Colón, juste à quelques mètres du siège du Parti populaire. Il y a quelques minutes, la musique s'est arrêtée ici et a laissé place au discours que vous écoutez peut-être derrière moi. Ce sont les organisateurs qui ont pris la parole, entrecoupés par les applaudissements et les cris des manifestants qui réclament notamment l'incarcération de l'ancien président catalan Puigdemont.
Et au sujet des mesures coercitives qui peuvent être prises, de nouvelles mesures prises par le pouvoir central, notamment au sujet des fonctionnaires catalans qui doivent désormais donc obéir aux ordres de Madrid, s'il se trouvait qu'ils n'obéissaient pas, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Eh bien, ce n'est pas simple pour eux, car ils ne savent pas tellement à quel sein se vouer en ce moment. Ils sont 300 000 à travailler dans le secteur public régional, 200 000 pour la Generalitat de Catalogne, et ils sont vraiment perdus car ils risquent de recevoir des ordres totalement contradictoires dans les prochains jours. Ainsi, l'ancien conseiller catalan des affaires étrangères, Raúl Romeva, a déclaré il y a quelques jours à la BBC que les fonctionnaires catalans ne vont pas obéir aux ordres de Madrid. De son côté, c'est tout le contraire. Le président du PP catalan, Xavier García Albiol, a affirmé hier qu'il est persuadé que la plupart des fonctionnaires catalans vont suivre les ordres de Madrid. En même temps, il a lancé un avertissement très clair et très ferme à ceux qui auraient tendance à vouloir désobéir, car selon lui, ils pourraient perdre leur emploi.
Marie-Hélène Ballestero, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Madrid pour France Culture. Après Madrid, direction Barcelone, où après une nuit à fêter la déclaration d'indépendance, la région apprend donc ses mesures de reprise en main décidées par le pouvoir central. Sandrine Etoua-Handeg, vous êtes à Barcelone. Cette reprise en main reste pour le moment théorique aux yeux des indépendantistes.
Oui, effectivement, pour l'instant, il n'y paraît rien. Je suis devant le palais de la Generalitat, le siège du gouvernement catalan, qui a donc été repris en main par désormais la vice-présidente de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, qui va désormais assumer les compétences de présidente donc de ce gouvernement catalan. Il faut bien comprendre qu'il y a deux univers parallèles, vu de Barcelone, bien cette république catalane, indépendante, autoproclamée hier dans ce qui restera un jour historique pour bon nombre de Catalans. Et puis il y a aussi cette désormais région espagnole sous tutelle où se tiendront des élections générales le 21 décembre prochain. Et puis on remarque que de toute façon, sur le toit du palais de la Generalitat, eh bien il y a toujours le drapeau catalan et le drapeau espagnol qui flottent l'un à côté de l'autre. On a parlé, c'est vrai, de ces quelques municipalités catalanes qui, elles, ont enlevé le drapeau espagnol sur le fronton de leur mairie. Il y a une autre commune dans la banlieue de Barcelone qui, elle, a également enlevé le drapeau européen, manière de rappeler eh bien que cette République catalane est isolée sur la scène européenne. Un mot de Carles Puigdemont pour parler de son silence. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles du président catalan séparatiste depuis l'annonce officielle de sa destitution. Il ne s'est pas exprimé ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Par ailleurs, on sait qu'il peut être arrêté à tout moment puisque il est accusé d'actes de rébellion suite à cette déclaration d'indépendance. Ses partisans ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à manifester tous les jours, s'il le fallait, de manière pacifique, pour le faire libérer s'il était arrêté.
Sandrine et toi, en direct de Barcelone pour France Culture, merci beaucoup à vous. Et les moyens techniques étaient réalisés par Georges Thau. Vous le disiez à l'instant, Sandrine, la réaction des voisins européens, elle, est unanime. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tous disent ne pas reconnaître la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Emmanuel Macron lui apporte son soutien plein et entier au gouvernement Rajoy. Ailleurs en Europe, les Islandais sont appelés aux urnes aujourd'hui depuis 9 heures pour des élections législatives anticipées. Beaucoup d'indécisions, 9 partis sont en lice. Du Parti de l'Indépendance, la majorité sortante, formation conservatrice dominante depuis 1944, jusqu'au mouvement gauche-vert qui draine une partie des électeurs déterminés à solder ce qu'ils dénoncent comme les années fric ayant mené à la crise financière en 2008. Au Maroc, les habitants de la région du Rif fêtent aujourd'hui un anniversaire, celui de la naissance d'un mouvement de contestation baptisé Hirak. Il est né le 28 octobre 2016. Ce jour-là, un poissonnier est broyé par une benne à ordures à Al-Oseima. Il tentait de s'opposer à la saisie de sa marchandise. Événement déclencheur d'une grande vague d'opposition au pouvoir avec plusieurs manifestations. Une rébellion que la monarchie a tenté de faire taire en arrêtant des centaines de manifestants depuis le printemps dernier. Alors un an après, si l'envie de rester mobilisé est toujours là chez de nombreux habitants du Rif, peu d'entre eux sont prêts à risquer la prison. Retour à Al-Oseima, c'est un reportage de Stéphanie Wenger.
Dans sa boutique de smartphone du centre-ville d'Al-Oseima, Nasser hésite d'abord à parler. Mais il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il dise son soutien au Hirak, le mouvement qui a embrasé la région.
On était toujours avec le Hirak et on l'est toujours. On l'est toujours. Parce que ce qu'ils ont demandé, c'est pas quelque chose qui est coûteux pour l'État. C'est le minimum des droits. Facultés, des hôpitaux, des sociétés. Ce sont nos droits.
Rassemblement interdit, arrestation, les autorités ont agi avec sévérité. Mais certaines demandes ont été entendues. Depuis quelques mois, le centre d'oncologie a reçu de nouveaux équipements pour soigner plus de cancers, comme nous l'explique le docteur Abdelaïssa.
Là, c'est le fameux scanner qu'on attendait depuis longtemps. Et on a commencé de traiter surtout les localisations ORL, le cancer du poumon, le cancer digestif et le cancer de la prostate qu'on ne pouvait pas faire auparavant.
Poisson frais, poisson d'aujourd'hui.
Au port de pêche, les contrôles ont été renforcés. Aujourd'hui, la période de repos de l'espadon est scrupuleusement respectée. Plus ou moins convaincus, pêcheurs et vendeurs se souviennent de Morsin Fikri, un gars bien. Et malgré la répression, Ismaël est bien décidé à descendre dans la rue.
J'irai manifester, bien sûr. Pourquoi j'irai pas? Ils doivent libérer les prisonniers politiques.
Un appel à manifester a été lancé pour ce soir dans plusieurs villes du pays pour libérer tous les détenus du Hirak.
Un reportage à Al-Oseima, au Maroc, de Stéphanie Wenger. En France, après de nombreux débats à l'Assemblée, mais aussi dans l'espace public, les députés ont voté hier soir l'extension du nombre de vaccins obligatoires. Ils passeront de 3 à 11. Ça concerne les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018. Le texte a été adopté en première lecture. 63 voix pour et 3 voix contre. 9 abstentions, car oui, la vaccination est à l'origine d'une vaste polémique depuis plusieurs mois. Michèle Rivasi, députée européenne écologiste, est l'une des figures de cette opposition. Pour elle, cette obligation de vaccination stigmatise les personnes anti-vaccins.
En fait, quand vous regardez, on va les sanctionner encore davantage, puisqu'on va faire référence au code pénal et pas au code de la santé publique. Si jamais vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Non mais on est dans quoi là? On est en train d'infantiliser les parents, on est en train de les prendre à rebrousse-poil. Moi je veux qu'on me donne la balance bénéfice-risque, voyez, sur chaque vaccin, et qu'on me garantisse que les adjuvants qui sont mis dans les vaccins ne provoquent pas d'effets neurotoxiques, comme c'est le cas de plus en plus dans les études qu'on voit par rapport à l'aluminium.
Annick Guimézanès est immunologiste, ancienne chercheuse à l'INSERM. Elle rencontre des parents inquiets de l'obligation et elle tient à les rassurer.
Il y a un trouble dans les gens qui pensent que quand on dit 11 vaccins obligatoires, ça va être 11 vaccins à la première injection des nourrissons de 2 mois. Or, en fait, le calendrier vaccinatoire ne change pas du tout. Le calendrier vaccinal, c'est le même. Et donc, les enfants auront des injections avec l'hexavalence, ce que la majorité des gens faisaient par le pédiatre et le médecin. Donc, il y aura 2 injections à 2 mois et 4 mois, comme maintenant. Et après, plus tard, il y aura des vaccins comme la rougeole, au rayon rubéole à 1 an, et puis ensuite méningocoque, pneumocoque et ainsi de suite. Finalement, les enfants sont en grande majorité vaccinés, quand c'était recommandé.
Un dossier suivi par Louis-Valentin Lopez. Et les parents récalcitrants en cours, en théorie, jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 euros d'amende. 12h passées de 41 minutes sur France Culture, l'heure de la bulle écho. Et aujourd'hui...
Bonjour, c'est la crise qui a provoqué le plus de jeux de mots ces dernières semaines, une crise du beurre qui ne fait pas rire tout le monde tant elle est symptomatique des tourments qui traversent le monde agricole français ces dernières années. Alors cette crise du beurre qui dans certains de nos supermarchés s'est même transformée en quasi-pénurie, d'où vient-elle? D'une forte hausse de la demande et d'une relative faiblesse de l'offre, classique. Mais avec cette particularité française, dans nos magasins, la plaquette de beurre n'a presque pas augmenté son prix. Alors que sur les marchés mondiaux, on est passé en quelques mois d'un beurre à 2500 euros la tonne à un beurre à 6500 euros la tonne. Quelles en sont les raisons? D'abord, le retour en grâce de la matière grasse. Plus précisément, il semble que parmi d'autres facteurs, une du Time de 2014 intitulée « Eat Butter » et d'autres articles scientifiques vulgarisés par la suite ont convaincu beaucoup de consommateurs américains que le gras, en tout cas celui du beurre, n'était plus à bannir. Avec des conséquences quasi immédiates et très concrètes, écoutez cet expert dans un sujet consacré au phénomène sur France 5.
Il faut savoir que McDonald's aux États-Unis a décidé d'abandonner la margarine au profit du beurre. Et bien ça, c'est ne serait-ce qu'à l'échelle que de McDonald's, c'est 20 000 tonnes de beurre de plus pour le marché américain.
Ajoutez à cela une demande asiatique de plus en plus importante, cela donne des marchés à l'export dont les transformateurs de beurre ont bien vu l'intérêt, sans compter que le beurre peut se stocker pour se vendre quand le cours est au plus haut. L'offre ensuite, la crise du lait, la mauvaise récolte fourragère et l'hiver qui approche ont contribué à faire diminuer notre production française. Et nous voilà avec cette situation paradoxale, un prix du beurre qui atteint des sommets et des producteurs de matières premières, le lait, qui ne s'en sortent toujours pas, des rayons de supermarché qui n'ont que très peu répercuté la hausse des cours, 7 à 8% en moyenne pour une plaquette classique, quand en Allemagne, le beurre a augmenté en rayon de 150%, sauf qu'en Allemagne, la hausse des cours s'est répercutée à peu près également entre tous les maillons de la chaîne, quand en France, c'est le transformateur qui a engrangé la quasi-totalité de cette hausse.
Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre, et le paquet beurre, 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 beurre.
Je veux du beurre, chantait le groupe de rock Au bonheur des dames dans les années 70, mais qui touche l'argent de ce beurre aujourd'hui? La réponse à cette question, c'est l'illustration jusqu'à l'absurde de la crise qui touche le modèle agricole français, plus particulièrement son modèle commercial. On rappelle qu'en France, c'est la grande distribution qui fixe les prix d'achat des produits alimentaires. Elle les fixe le plus bas possible. Les industriels le répercutent ensuite vers les exploitants et producteurs qui fournissent la matière première. Par ailleurs, ces prix sont fixés une seule fois par an, parfois même pour plusieurs années, sans possibilité de changer si les cours augmentent à la hausse ou à la baisse. Le prix du beurre, par exemple, a été fixé en février dernier. Le cours a augmenté de 260%. On ne change rien jusqu'en février prochain. Une rigidité accentuée par un déséquilibre patent entre quelques géants de la grande distribution se menant une guerre du prix le plus bas face à une multitude de petits producteurs qui n'ont pas réussi à s'organiser correctement. Voilà comment certains distributeurs préfèrent laisser leur rayon vide plutôt que de payer plus cher un beurre que les transformateurs préfèrent alors vendre à l'étranger. Cette rigidité, ce déséquilibre, c'est tout l'enjeu de la transformation du modèle agricole que souhaite Emmanuel Macron. Mais avant lui, d'autres ont pris des initiatives. C'est qu'il patron, par exemple, cette marque qui propose une bouteille de lait au juste prix en informant le consommateur sur ce qu'il paye exactement. Quel fourrage, pour quelle bête, pour quel salaire du paysan, pour quelle mise en bouteille, pour quels frais de transport, pour quelle marge du distributeur. Ce sont des millions de briques de lait qui se sont écoulées depuis quelques mois. Un exemple qu'ont certainement en tête les distributeurs, les industriels et les coopératives qui se préparent. En ce moment, leur négociation annuelle commerciale commence mardi.
Merci Anne-Laure Chouin. La bulle économique, c'est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Un front et puissant soleil dans le sud, un ciel qui hésite entre des nuages et un grand bleu. Voilà le menu météo. Il fera de 13 degrés à Lille, 14 à Paris et à Brest, jusqu'à 20 à Marseille et 21 degrés à Ajaccio.